19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Vous le savez, comme chaque soir, nous sommes ici pour commenter, analyser, décrypter l'actualité. Vous vous rendez compte, chaque soir, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Alors au menu, je vous propose quoi? Je vous propose précisément, eh bien d'abord, un, le standard est plus que jamais ouvert au 01 53 48 3000 et vous êtes prioritaire. Deux billets d'humeur, deux quoi de neuf. D'abord, le grand avocat Fabrice Divisio qui vient avec son édito, toujours aussi corrosif et satirique. Ensuite, Dr Majid Soussine viendra lui à 19h30 nous livrer évidemment son billet d'humeur. Exceptionnellement, trois débatteurs influenceurs aujourd'hui viennent confronter leur point de vue sur trois sujets évidemment qui ont retenu notre attention aujourd'hui. Tiens, c'est la grève des enseignants demain. Un jeudi complètement noir. Ça grouille entre le ministre de l'Éducation nationale et les enseignants, les syndicats. Autant dire que ça ne va pas. Alors, on en parlera. Parce que M. Blanquer, il a tendance à attiser la colère de qui? Eh bien, des profs. On va en parler.
C'est bon. Des Français
En tout cas, des profs. C'est eux qui, demain, manifestent. Ensuite, après, vous savez, nous irons nous regarder des présidentielles 2022. Emmanuel Macron, donc, en forte baisse au premier tour, au coude à coude avec Valérie Pécresse. Nous tenterons de savoir qu'est-ce qui se trame derrière ce sondage, mais surtout, à quoi doit-on s'attendre? Et enfin, dernier sujet, la gauche existe-t-elle encore? Ou alors, attendez, pardonnez-moi, la gauche peut-elle être sauvée avec Montebourg et Taubira? Voilà le programme qui vous attend, 01 53 48 3000. C'est parti, c'est tout de suite et plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Il est 19h02, c'est le quad 9.
Les informés, le quad 9.
Et le quad 9, on l'ouvre l'antenne, on ouvre les informés avec maître Fabrice Divisio. Bonsoir mon cher maître.
Bonsoir.
Vous savez que il y a toujours autant de retours lorsque vous intervenez avec votre billet d'humeur, votre signature. Bonne année mon cher maître.
Bonne année.
Bonne année. On vous écoute pour cette nouvelle année concernant votre carte blanche et le quad 9. C'est parti.
Eh bien, mon cher Adil, il s'en passe des choses au Royaume de France, mais des choses. Si un réalisateur, un jour, était en panne d'inspiration, nul doute qu'il suffirait qu'il ouvre sa télé et qu'il regarde ce qui se passe dans notre beau pays, ce serait la future série best-seller de Netflix. Regardons plus près. La semaine dernière, vous le savez, un monsieur qu'une minorité de Français a eu la bonne idée d'élire le président de la République, nous a donc expliqué que les personnes non vaccinées, dont je fais partie, il fallait les emmerder, tandis qu'elle n'était plus citoyenne car irresponsable. D'ailleurs, quand on y pense, je crois avoir les sondages dont vous avez un petit peu parlé, oui. Que manifestement, il n'y a pas que les non-vaccinés qui emmerdent d'autres présidents, mais une part substantielle de la population, et ça depuis 5 ans. Mais c'est un autre débat. Dans la foulée de cette allocution présidentielle, un sondage qui a fait grand bruit, dont je suis à l'origine, pour ma nouvelle chaîne YouTube avec Eric Morillo, montrait que 52% des Français étaient favorables à ce que ces irresponsables non-vax paient totalement ou partiellement leurs soins de réanimation. Aïe, ça pique un peu côté générosité, France Terre d'accueil, tout ça. Entre les électeurs de Zemmour qui veulent que tous les étrangers paient avec, on sait pas trop quel argent, mais c'est pas grave, leurs soins médicaux, et qui s'associent aux électeurs de La République En Marche pour faire payer les non-vax, autant dire que ça la fout quand même mal.
Ouais.
Et de fait, on constate que le parti présidentiel qui traite les non-vax d'égoïstes et qui se veut le meilleur rempart à Éric Zemmour rêve de pouvoir faire payer les soins d'hôpital à une minorité, la différence avec l'ancien chroniqueur de Laurent Ruquier étant juste que c'est pas la même. Encore qu'il serait intéressant de les interroger sur les étrangers, d'ailleurs. Donc, les généreux veulent faire payer aux égoïstes les soins de réanimation. Ouais, c'est le monde d'après au Royaume de France. Mais c'est pas tout. Voici que le Sénat nous explique que nous avons mal interprété les propos du président de la République, lequel, pauvre bougre un peu soupolais, ne maîtrise pas les règles de l'hypocrisie politique et s'est laissé râler à quelques excès de langage qu'il ne faut surtout pas mal comprendre. En effet, le Sénat, lui, veut priver des millions de Français de leurs droits fondamentaux, mais, Adil, non pas pour les emmerder.
Oui.
Qui oserait parler ainsi? Mais pour les protéger, mais pas président qui veut. Voilà, pour les protéger. Ce que j'aime quand l'État prend ainsi soin de moi, ce que j'aime quand la mère patrie veut me protéger, ce qui rime avec emmerder, mais qui, bien sûr, n'est pas la même chose. Ah, que j'aime mon Sénat, qui ainsi prend souci de ma santé, qui ne veut pas que je me retrouve en réanimation à l'hôpital, et cherche ainsi à me protéger. Bon, bien sûr, il aurait pu y penser au moment où il a voté les coupes budgétaires de l'hôpital et fait disparaître l'équivalent de la ville de Reims en nombre de lits d'hôpitaux, mais c'est une autre histoire encore. Il ne veut pas protéger notre Sénat, tous les Français, mais juste les non-vaccinés. Il ne faudrait pas trop lui en demander non plus. Alors évidemment, au-delà de ça, la question est de qui ?
Oui.
Des personnes vaccinées qui n'ont été soumises à aucun test depuis 6 mois et qui pouvaient donc librement se balader où elles voulaient, comme elles voulaient, avec le passe-partout magique, et ce, même si elles étaient symptomatiques. Des personnes vaccinées dont le QR code n'était pas désactivé malgré leur positivité au Covid. Mmh. En somme, s'agit-il de protéger les irresponsables du comportement des responsables ? Ou s'agit-il de les protéger d'eux-mêmes, peut-être, de la même façon qu'on protège un enfant, incapable de décider par lui-même de ce qui est bon ou pour lui ? Mais passons cela aussi. S'il change de chaîne pour réalisateur, il entendra Jean Castex vous expliquer que les autotests désormais suffisent, là où ils n'étaient pas efficaces pour les inclure au pass sanitaire il y a quelques mois, selon Olivier Véran. Et il entendra dire que le virus est très dangereux et que les personnes vaccinées, hélas, c'est vrai, peuvent transmettre celui-ci, mais qu'elles ne sont dès lors pourtant plus obligées de s'isoler quand elles sont qu'à contact, et mieux, si elles sont soignantes, elles doivent quand même continuer à travailler alors que positives au Covid. Il se souviendra alors que les soignants négatifs, eux, demeurent suspendus. Et il terminera sa soirée en entendant Olivier Véran dire « Bah quoi ? On y va à tâtons. Bah oui, tonton, tu y vas à tâtons, mais c'est pas pour autant que tu vas nous prendre pour des cons. J'ai dit un gros mot, je suis donc éligible à la fonction présidentielle. »
C'est ça, exactement. Merci mon cher maître Fabrice Divisio, que je retrouve, qu'on retrouve d'ailleurs, dans le Quoi de Neuf, chaque mercredi à 19h, précise, pétante. Merci mon cher maître.
À bientôt.
À bientôt, prenez soin de vous surtout.
Si, à bientôt à Lille.
Le Quoi de Neuf.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Allez, c'est parti tout de suite, on va lancer la machine avec justement les débatteurs influenceurs. Les débatteurs influenceurs qui sont autour de ce plateau, c'est parti, jingle.
Les informés, le face-à-face.
Emmanuel Dupuis, bonsoir.
Bonsoir Adil, bonsoir.
Le président d'Olipse, comment ça va ?
J'allais dire bonsoir aux auditrices, aux éditeurs, et je veux surtout vous souhaiter une bonne année. C'est la première fois qu'on se voit depuis le début de l'année.
C'est vrai, bonne année aussi également.
Deuxième fois, pardon.
Deuxième fois. Donc
mais
on s'est sauté.
Mais je recommence.
Alors recommencez, vous avez bien raison.
On en aura tous besoin.
À vos côtés, c'est Gamal Abina, réalisateur engagé, mais aussi le porte-parole du mouvement MDC. Voilà, c'est ça. Ça y va,
bonsoir,
ça va ?
Bonsoir, oui, ça va très bien.
Tout va bien.
Bonne année à tout le monde.
Oui.
Bonne santé surtout, et puis on espère que on en sortira une fois pour toutes, ces mauvaises histoires.
Oui, absolument. Bah, justement, on va en parler dans une poignée de minutes. Mohamed Benjedour, bonjour, bonsoir.
C'est pas la première fois que je viens, quand même.
Oui, c'est ça. Je sais pas, vous m'avez...
Bonsoir, monsieur.
Comment Fakel. Ça va ? Bonne année ?
Ça va très bien. Bonne année à toutes les auditrices,
d'abord. J'ai décidé de mettre le masque à moitié. Ça, je l'avais pas vu encore.
Il a le masque le plus efficace.
Ah oui, voilà. Le plus efficace. Je connaissais pas à moitié, moi.
Je fais attention.
Et vous êtes venu accompagné ?
Absolument, avec Faisal Al-Batur, qui est un ami saoudien et qui voulait visiter Beurre FM et qui voulait dire un petit mot à Beurre FM.
Comment ça va, Faisal? Ahlan wa sahlan, كيف حالك?
شكرا للاستضافة وسعيد اني موجود لايف على بيغ اف ام. سعيد بال يعني انا علاقتي مره كبيره بالعرب كوميونيتي في فرنسا بالتحديد في باريس, وانا سعيد اني اليوم وصلت من السعوديه والتقي مجددا باصحابي واخواني واحبابي.
شكرا جزيلا. Merci beaucoup infiniment. Il va finir par racheter la radio, lui. Attention.
Bah,
c'est ça.
Il a dit.
J'ai Maketan, si tu nous écoutes. Je crois qu'il est venu faire
ça. Il vient de dire, j'ai visité les locaux, ça me plaît bien, j'achèterai bien la radio. Il remercie BFM de l'accueillir et il fait un grand salut à toute la communauté arabe
qui est très importante.
Qui est très importante, tu l'as dit. Il a aussi dit, j'ai beaucoup d'amis. Arabe ou d'origine arabe vivant en France, voilà. Et Faisal est un très bon ami.
Je vous communique donc le contrat. Le voici, vous allez le signer dans peu de temps.
Il a dit peut-être.
Gemma, si tu nous écoutes, voilà, il a dit peut-être.
Gemma doit revenir.
Allez, messieurs, plus sérieusement, nous allons démarrer avec justement le premier sujet qui a retenu notre attention. À quoi peut-on s'attendre demain ? Grosse manifestation, justement. Et quand je parle de manifestation, c'est les professeurs qui sont en colère contre Jean-Michel Blanquer, notre ministre donc de l'Éducation nationale. Grosse mobilisation massive dans toutes les écoles qui se préparent demain avec, clairement, au protocole anti-Covid, justement, et comment dirais-je, pardonnez-moi la trivialité du terme, ce bordel, Gamal Abina.
Le problème, c'est que les gens ont des problèmes de mémoire. Ils oublient quand même qu'il y a un an, on n'était pas à l'école, tout le monde était enfermé, on circulait difficilement, la peur était généralisée, et que, alors moi je ne suis pas du tout dans la... pour la, avec Macron, c'est pas du tout ma culture politique, mais quoi qu'il en soit, il faut savoir rendre hommage aux gens qui ont fait le boulot. Macron n'a pas été bon, comme d'ailleurs tous les gouvernements du monde, au démarrage de la crise. Mmh. Puis au fur et à mesure, il y a eu de la réflexion qui a été posée, et finalement, on a obtenu ce vaccin, qui est quand même, enfin, ces vaccins qui sont quand même une porte de sortie pour sortir de cet enfer. Ça a été très dur, on a eu beaucoup de morts, c'est un pays qui a beaucoup été frappé dès le départ, et aujourd'hui on se rend compte qu'il y en a moins de 130 000 morts, que c'est bien géré. Donc c'est vrai que les gens sont un peu râleurs, cette mentalité un peu franco-française là, qui est très râleur, qui est jamais contente, râleuse je veux dire, mais en vérité, il faut savoir une chose, c'est qu'il faut comparer ce qu'on a eu l'année dernière aujourd'hui.
Sauf que là les profs sont en colère depuis 2 ans maintenant.
Et c'est normal.
Gamal, c'est bien de nous dire ça, mais attendez, 2 ans de galère, 2 ans évidemment de turpitude, 2 ans...
2 ans pour tout le monde.
Ça prend là, tu vois.
Pour tout le monde.
Tout le monde est à la même enseigne. Bon, alors je vais écouter
Emmanuel Dupuis. Je peux dire un petit peu le propos, c'est pas la question de savoir si Macron est un bon leader, c'est de savoir s'il y a une cohérence dans les décisions qui sont prises. Et on peut pas, en une semaine, avoir 6 versions différentes et dire le contraire... À chaque heure, j'écoutais juste avant de venir les débats à l'Assemblée nationale. Blanquer, en essayant d'expliquer son protocole, s'est lui-même encore trompé. Alors, c'est ça qui est inacceptable pour les Français, bien sûr. Gamal a raison, on est dans une logique de résilience.
Les Français, c'est pas volontaire.
Non, c'est pas volontaire.
C'est une désorganisation absolue. Il y a une incohérence entre le cabinet et les administrations. Absolument. Il y a un non-dialogue, alors qu'il n'arrête pas de gausser sur le fait qu'il y a eu une mobilisation très forte et un dialogue entre les syndicats. C'est pas vrai.
Après, c'est la culture de Macron. Il n'y a pas de dialogue depuis le début.
Oui, mais là, on ne parle pas de Macron.
Non, on parle
de l'éducation nationale.
Oui,
le principe, le problème vient...
C'est vrai que ce n'est pas Macron. Là, c'est la galère que vivent les professeurs, mon cher Gamal Abina.
C'est le gouvernement qui parle.
Attendez.
Oui, je suis d'accord, mais bon. Et les parents aussi.
Adil. La galère tous les Français.
Tous les Français, je suis d'accord.
Oui.
C'est pas que les professeurs, ce sont les élèves qui vont à l'école.
C'est pour ça que j'ai parlé des parents.
Les Français.
En général.
Les élèves, les parents,
les employés
et tous ceux qui ont un impact. Donc ça touche évidemment l'immense majorité de notre pays. Moi, ce qui m'étonne, c'est que il a fallu que nos partenaires européens ne comprennent pas notre orientation pour que, in fine, on en revienne au point de départ. J'ai écouté attentivement le ministre de la Santé nous dire, en gros,
Olivier Véran,
que les cas contacts ne sont plus contagieux, qu'on n'a plus besoin de s'isoler.
Mais voilà.
En gros,
c'est un retour l'arrière, ça.
Il faut laisser filer le virus. Je rappelle qu'en Espagne, ils ont pris ces décisions il y a quelques
absolument,
semaines,
oui.
Et ils considèrent que le virus est juste
une grippe
virale. Bon, eh bien, il a fallu 1 an et demi pour qu'on en vienne là. Mais mon Dieu,
vous avez raison.
La responsabilité de ce gouvernement est crasse.
Pas, en tout cas.
La responsabilité de ce gouvernement est que nous ait fait avaler des sornettes et que pour au bout de 1 an et demi, on ne s'en rende compte.
Ce que vous dites, Emmanuel Dupuis.
Comme ça, et je dis termine une phrase. On peut pas d'un côté dire que nous sommes dans une logique communautaire puisque nous présidons le Conseil de l'Union européenne depuis quelques jours, et dans le même temps se rendre compte que nous sommes les seuls à avoir ce protocole et que tous nos partenaires ne sont pas du tout dans la même logique. Le premier ministre belge a encore dit
la Belgique, c'est pas un bon exemple.
Peu importe.
Oui,
peu importe que c'est
Belgique,
pas un bon exemple. Ou le protocole italien.
Oui,
à un moment ou un autre, il faut laisser vivre ce virus. J'entends ce qu'a dit Olivier Véran aujourd'hui. La moitié de la population européenne va l'avoir. Donc, si c'était logique avec eux-mêmes, abandon des masques, puisque le principe, c'est que nous ayons une immunité collective parce que, et ça, de ce point de vue-là, je rends hommage au président. Absolument. Nous sommes un des pays européens qui est le plus vacciné en Europe.
On peut effectivement pas dire en même temps, il faut le passe vaccinal, il faut protéger les Français, stopper l'épidémie, et puis quelques jours après, effectivement, dire on va laisser filer l'épidémie, et puis ça va créer une immunité collective. En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu. Moi, je pense, pour compléter ou poursuivre sur ce que disait Emmanuel, que la goutte qui a fait déborder le vase, c'est véritablement le fait que les enseignants en ont marre d'apprendre les annonces et les décisions par médias interposés, au dernier moment certes, dans une logique qui laisse à désirer certes, mais surtout par les médias, et ça c'est un manque de respect flagrant. C'est la première fois demain quand même qu'on va avoir, et les cadres de l'éducation nationale,
c'est une mobilisation historique demain,
les chefs d'établissement,
75% des professeurs quand même.
Oui, c'est historique quand même,
ça veut rien dire.
C'est énorme.
C'est énorme, malgré tout c'est énorme.
C'est annoncé.
Mais symboliquement c'est énorme d'avoir ces... toutes ces catégories de l'éducation nationale,
bah, oui,
toutes ces catégories qui se tiennent la main pour
qui dénonce la gestion de l'épidémie
et pour dire assez,
non,
pour dire assez,
non, non, c'est l'école, c'est l'école.
Ils dénoncent pas,
ils dénoncent la gestion par le ministre
de l'éducation nationale
de la pandémie, ils dénoncent pas la gestion de la pandémie, c'est pas tout à fait la même chose.
Par contre, ils dénoncent la gestion de l'épidémie par le gouvernement.
C'est une chose importante.
Par le ministre de l'éducation.
L'éducation, oui,
c'est pas la même chose.
Blanquer, c'est Blanquer le problème. Mais Blanquer est problématique depuis longtemps. Il y a une chose qu'il faut ajouter.
Merci.
Non, c'est vrai, faut être honnête.
Honnêtement, je pense que Blanquer aura beaucoup de mal à se maintenir après cette manifestation.
C'est clair, c'est compliqué. Mais ce qui est sûr, il faut être très clair. Depuis le début de cette pandémie, on navigue à vue. C'est pour ça qu'il y a eu énormément de fautes et d'erreurs qui ont été commises. Il n'y a pas que des fautes. Hein. Il y a des erreurs, il y a des méconnaissances évidentes et on a navigué à vue. Prends l'exemple très concret. Pourquoi est-ce que le discours a changé ? Il a changé parce que les Espagnols ont lancé il y a 2 jours qu'ils allaient considérer cela non plus comme une pandémie, mais comme une simple épidémie de type grippal. Voilà pourquoi ça a changé. Parce qu'on s'est rendu compte, et je t'en avais parlé il y a 2 semaines,
oui,
que ce fameux nouveau variant ne serait pas dangereux. J'ai pas annoncé un truc d'une boule de cristal, c'est que tous les précédents étaient moins impactants et moins dangereux que la première vague. J'en veux pour preuve, on a beaucoup moins de morts, indépendamment des dispositifs qui sont mis en place. Mais ce variant est tellement peu dangereux que maintenant on se dit qu'on va obtenir cette fameuse immunité collective et il faut effectivement, et moi je suis pas macronien encore une fois, rendre grâce à Macron qui a eu une stratégie en juillet très dure, hein, faut être très clair. On pouvait pas y échapper à la vaccination, mais son objectif était clair, il voulait 90% à 100% de vaccination. Le résultat, et je prends deux exemples.
On l'a,
tant mieux. Le résultat, je prends 2 exemples pour vraiment expliquer la chose. 2 choses très importantes, dont une qui doit marquer les esprits. D'abord, le pays le moins peuplé d'Europe, quasiment, Islande, n'a pas de mort depuis des mois. Pas un seul mort. Ils ont des malades comme partout, mais pas de mort.
Ils ont Omicron ?
Ils ont Omicron ? Non, ils ont tous. Mais ils n'ont pas un seul mort. Et on m'opposera qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Très bien. Donc le pays le plus peuplé de la Terre, la Chine, 1,450 milliards d'habitants vaccinés en totalité. Pas un mort depuis un an. Donc ces 2 éléments constituent une preuve du fait que la vaccination a vaincu le virus, non pas en termes de létalité, puisqu'il y a forcément des morts dans le monde, mais si tout le monde est vacciné, il ne meurt plus. Et pour finir, j'ai envie de dire une chose simplement pour conclure mon propos, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois dans les médias, on va me dire je suis pro-vax. Non, je ne suis pas pro-vax, je suis pro-sécurité. Je considère qu'il est lâche de la part des gens qui manifestent de plus en plus avec l'extrême droite d'oublier que les gens fragiles, je parle pas seulement des vieux dont tout le monde se fout manifestement dans ce pays, mais je parle des gens fragiles qui ont des aplasies, qui ont des globules blancs très bas, qui ont des défenses immunitaires très basses pour des raisons X ou Y, ça peut être les leucémies ou autres. Que ces gens-là soient mis en danger de mort parce que nous sommes trop égoïstes pour nous vacciner. Il faut
être continue d'en parler. On continue d'en parler. Justement, hier, j'avais des témoignages des auditeurs qui... je l'entends aussi. Hein. Vous avez des pro-vax et des anti-vax. C'est comme ça, c'est se respecte, Gamal Abina.
Non, du tout. Il y a deux
hier, j'avais des gens, des auditeurs, des auditrices de Lyon, de partout qui nous appellent.
Adil.
D'ailleurs, 01 53 48 3000, le débat se poursuit. Si vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Gamal Abina, vous nous appelez. Si vous êtes contre, vous nous appelez. Et puis, vous voulez en parler, témoigner, vous nous appelez au 01 53 48 3000. Je suis obligé de lancer la pub et on se retrouve tout de suite après.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h, 20h. Les informés avec Adil Farkan.
Les informés, c'est 19h23. Vous le savez, plus que jamais, les informés, c'est ici même que ça se passe avec la dernière, jusqu'à 20h, pardonnez-moi, avec Emmanuel Dupuis, avec Gamal Abina, avec Mohamed Benjebour, qui était venu accompagner également de Faisal. Les auditeurs, jingle, c'est parti.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Vous attend au 01 53 48 3000. Je veux vous entendre effectivement nous parler, nous faire des témoignages concernant donc la grève qui s'annonce demain. Comment comptez-vous vous organiser entre télétravail, grève, garde des enfants, bref, un sacré merdier qui s'annonce pour demain. Comment vous comptez vous y prendre et comment vous comptez vous organiser? Est-ce que c'est pas une journée galère demain quand même, hein, qui nous attend, Emmanuel Dupuis? Moi, je crois que oui.
J'aime bien.
Clochette! Il est fou, cet Emmanuel!
Non,
mais ça va pas ou quoi?
C'est le but.
C'est le but, on fait grave, c'est le but, allez, c'est le but, on fout la merde.
C'est un truisme, comme on dit. C'est un truisme.
C'est ça, vous avez vu en France? Incroyable.
Non, bien sûr que le but, c'est de perturber. D'ailleurs, le but, c'est vraisemblablement de changer le protocole. Parce que c'est le souhait des syndicats. Vous avez raison de rappeler qu'il y a 75% des professeurs qui vont manifester, mais ils ne manifestent pas forcément tous pour la même raison. Il y a certains qui voudraient qu'on ferme l'école tout court, d'autres qui voudraient qu'on assure la continuité pédagogique, d'autres qui voudraient tout simplement que les choses soient clarifiées. Moi, la réponse du ministre va être très intéressante, parce qu'il a semblé être dans le déni jusqu'à présent, encore il y a quelques heures, à l'occasion donc du débat parlementaire devant les sénateurs, où il a récusé les accusations en disant que tout avait été fait selon les connaissances scientifiques qui remontaient. C'est ce que Gamal Abinah disait tout à l'heure. Ce gouvernement navigue à vue, mais c'est pas.
Qu'est-ce qu'il devrait faire, le ministre de l'Éducation nationale?
Démissionner. Vraisemblablement.
Je
pense que ce serait la solution
comme décision.
Gamal Abinah, qu'est-ce qu'il devrait faire? Ça ne lui ressemble pas, ce genre de posture radicale.
Qu'est-ce qu'il devrait faire?
Non, mais je pense qu'il y a des remises en question. Mais effectivement, malheureusement, Blanquer, il est très mal vu par le corps enseignant. Donc effectivement, là, bon, pour le coup, je vais rejoindre un radical, puisque je serai radical à mon tour. Il devrait effectivement présenter sa démission. Il y a 3 mois de la fin du mandat.
Mohamed Dengebo.
Moi, je trouve qu'ils sont très radicaux, nos amis. Là.
Ouais, et puis, carrément.
Bon, je connais pas bien Gamal, mais Emmanuel m'étonne un peu parce qu'il est toujours
alors,
très posé.
Je vais préciser mon propos. Oui. Attention, je dis qu'il doit démissionner non seulement parce qu'il a failli être dans son rôle de rassurer les parents. Vraisemblablement, c'est le contraire qui a été la résultante de ce positionnement. Mais il devait démissionner pour une autre raison. C'est que l'ensemble de son bilan est quand même peu défendable.
Je suis d'accord.
0153483000.
D'une phrase, la revalorisation du métier de professeur, c'est une vue de l'esprit.
Ouais, exactement. Paris, direction Paris, nous allons accueillir Samy qui souhaite répondre à Gamal Abinah. Samy, bonsoir.
Bonsoir l'équipe, salam alaikum.
Alaikum salam. Comment ça va mon cher Samy?
Alhamdoulilah, bonne année à tous, meilleurs voeux à toute la communauté d'Or FM.
Merci bien.
Gamal Abinah, Adil, toute l'équipe.
Merci à vous, mon cher Samy. Oh.
Nous, non.
Emmanuel Dupuy dit nous, non. Il a dit toute l'équipe. Clochette, l'ami, qu'il est terrible. Il est chaud ce soir. Il est chaud cet Emmanuel. Exactement. Samy, dites-nous tout. Vous avez souhaité répondre à Gamal, on vous écoute.
Pas spécialement à Gamal, mais c'est vrai que là, je suis au volant et j'ai écouté ce qu'il a dit là il y a quelques minutes.
Oui.
Et moi, je trouve Gamal Abinah, j'ai énormément de respect pour lui. Je trouve que c'est quelqu'un d'éminemment intelligent.
Ouais. C'est une star, vous savez, ici, là, chez nous, aux Informa et Kémon et Jupiter. Ouais, c'est vrai.
Je trouve personnellement que c'est assez réducteur de dire, par exemple, aujourd'hui, de catégoriser deux populations.
Vous avez raison, Samuel. Il a droit à une clochette, ce Gamal Abinah, aujourd'hui.
Non, mais c'est vrai.
Voilà.
Moi, j'ai décidé personnellement, toute ma famille est vaccinée, sauf moi. Moi, je ne veux pas me faire vacciner. J'ai mes raisons. Je veux juste que les gens comprennent qu'il y a des libertés en France et dans le monde, d'ailleurs, et que ceux qui veulent se faire vacciner, pas qu'ils se feront vacciner, mais s'ils ne se font pas vacciner, c'est pas pour autant que ce sont des pestes.
C'est vrai.
Je peux répondre à ça.
Donc, entendre nos politiques, nos dirigeants remettre la saturation des hôpitaux et les problèmes liés au fonctionnement sur le dos des non-vaccinés, je suis désolé, c'est un peu,
Samy,
c'est un peu trop gros.
Samy, oui. Vous avez été très clair. Gamal souhaite vous répondre.
Alors,
avec plaisir.
Avec plaisir partagé. Donc, merci pour les compliments, déjà, pour commencer. Alors, j'explicite mon propos. Je ne suis pas contre le fait qu'il y ait des gens qui aient peur de la vaccination, parce que la peur, je l'ai eue aussi, je la partage. C'est une peur qui est légitime parce que la vaccination est un processus qui est très récent, c'est ce type de vaccination. Et avec l'ARN, c'est pas plus rassurant. Mais ce que je veux dire, c'est que je considère, et j'ai pris le risque de me faire vacciner comme beaucoup de monde, non pas pour moi, puisque je me sentais pas en danger, j'ai eu le Covid, mais par rapport à ma famille, par rapport aux personnes âgées que je croise dans la rue, dans le métro, je considère que nous devenons des gens responsables ou même des héros si on protège les nôtres. Ça veut pas dire que je criminalise. En revanche, j'ai un problème avec ce qu'on appelle les anti-vax, donc des gens qui, par principe, refusent la vaccination au sens large du terme. Toute forme de vaccination, cela met en danger la société et d'abord leurs enfants quand ils refusent la vaccination. Et je rends hommage d'ailleurs, enfin je rends hommage, paix à son âme, à Karim qui a été manipulé par beaucoup de complotistes sur YouTube, il l'a dit lui-même, qui a fini par décéder. Voilà, cet homme ne méritait pas ce qu'il
jeune,
est arrivé.
Hein jeune, oui, 47 jeune, ans. Jeune, 47.
Avec une famille. Et c'est à lui que je
trois
pense.
Trois enfants, je crois. Une
oui, absolument. Avec sa femme et tout ça. Bref. Et c'est à lui que je pense quand des gens l'ont insulté parce qu'ils n'ont rien compris à ce qui se passait, parce qu'il y a eu un mélange sur BFM. Il faut penser aux gens qui sont fragiles et qui peuvent mourir. Moi, je veux protéger les plus fragiles. Et quand on est quelqu'un d'honnête, à mon sens, quand on est plus fort, quand on est plus résistant, on se doit de protéger nos anciens,
voilà, Samy,
les plus faibles. C'est ça que je positionne.
Samy, prenez soin de vous.
Merci infiniment. Merci à vous.
Bon merci. 0153483000. Continuez à nous appeler. Justement, concernant l'organisation de demain entre les parents, le télétravail, la grève qui s'annonce donc demain comme un jeudi noir. Mohamed Benjebou.
Je veux juste réagir sur quelque chose qu'a dit sur le début du propos de Gamal, qui a dit j'ai pris le risque de me vacciner. Tu prends un risque pour protéger d'autres personnes.
Absolument.
Sur un vaccin qui va quand même circuler malgré ta vaccination.
Un virus.
Ouais, un virus, pardon, qui va quand même
le virus circule, évidemment, il circulera jusqu'à ce qu'il soit éradiqué. Il sera éradiqué parce qu'on aura tous une barrière contre lui. Quand on chope le virus et qu'on est vacciné, ça dure 2 jours. Quand on n'est pas vacciné, c'est 1 semaine à 10 jours. Mmh. Donc on est contagieux pendant 10 jours pour tout le monde. Donc c'est en cela que je dis, si on veut écraser ce virus, parce que là on parle de guerre depuis le début avec Macron, qu'il utilise ses propos jusqu'au bout, qu'il assume. Si on est en guerre, on doit écraser le virus avec l'arme. Et la seule arme qu'on a, c'est la vaccination aujourd'hui. Mmh.
Voilà Mohamed Benjebou à 19h30, c'est le quoi de neuf, vous le savez, avant d'emprunter ce second sujet, les présidentielles 2022, Macron, Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui est en forte baisse au premier tour, au coude à coude, c'est un sondage avec Pécresse au second tour, selon un sondage qui est tombé aujourd'hui. Et alors, c'est vrai, on a du mal à interpréter les choses, bon, moi j'avais envie de traiter ce sujet pour expliquer évidemment et essayer de décrypter un peu la chose. Gamal Abina ou Emmanuel Dupuis, quelle interprétation doit-on donner, comment dirais-je, voilà, à ce sondage?
Bon, premièrement, que l'emmerdement auquel a fait référence le président Emmanuel Macron lui a coûté 3 points. Ça, c'est une réalité basique. Et qu'il est rattrapé par tous ses concurrents. Vous disiez qu'il est au coude à coude. Il est quand même devant Valérie Pécresse et Marine Le Pen, qui, elles, sont au coude à coude, en ayant toutes les deux 17%.
Oui.
Le deuxième élément...
Mais il est en forte baisse.
Il est en forte baisse.
Il a perdu
3%. Et le deuxième élément, Mohamed le dit, c'est qu'effectivement, au second tour, c'est pas tout à fait sûr qu'il gagne dans toutes les configurations. Il y a désormais une configuration où il serait perdant, ou en tout cas challengé, comme on dit, c'est dans une opposition entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron. C'est le deuxième élément. Oui. Le troisième élément, c'est que, in fine, le phénomène Zemmour se stabilise, en baisse, mais se stabilise. Et le quatrième élément, c'est que la gauche, finalement, malgré l'échec de la primaire, ou l'idée même de la primaire populaire, même si elle n'a pas encore eu lieu, se stabilise quand même autour de 10%. Donc finalement, rien n'est perdu. Et on peut très bien gagner 4 ou 5 points selon une erreur de parcours ou une petite phrase. La preuve, la phrase Emmanuel Macron lui fait perdre 3%. Ben. Il suffit qu'il en fasse une deuxième et il sera là pour le coup, au coude à coude, mais là, avec une nouvelle configuration où il risque pas forcément d'être premier.
On continue d'en parler. Je vais juste revenir sur le 19h32, le quoi de neuf, 2 minutes de retard avec le docteur Majid Soussine. C'est parti.
Les informés, le quoi de neuf.
Bonsoir, mon cher docteur Majid Soussine.
Bonsoir, mon cher Adil.
Chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, mais également aussi au SAMU, mais aussi aux Invalides chez les militaires. Que de choses. Alors, mon cher docteur, vous avez décidé de consacrer votre billet d'humeur à une nouvelle thématique. On vous écoute. C'est parti. À vous de jouer.
Bah, mon cher Adil, bonsoir. Vous souvenez-vous de votre sortie de prison?
Clochette! Mais vous êtes fou, quoi, vous?
Écoutez, prison où vous aviez été enfermé pour séparatisme. Ah. Après avoir, dans une vidéo adressée à vos co-religionnaires musulmans, dit non seulement de ne pas souhaiter la bonne année, mais en plus, vous leur avez interdit de fêter Yen Ayer sous prétexte qu'Éric Zemmour ne le voulait pas. Devant le juge, vous avez demandé une seconde chance et vous l'avez obtenue, puisque vous êtes désormais un journaliste du tout Paris, suppôt de tous les pouvoirs, qui a fait sienne la phrase d'Edgar Faure: ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent.
C'est la consécration pour un journaliste.
Hein. C'est ça, c'est la consécration pour un journaliste. Allez-y, docteur, allez-y.
D'autres après vous ont cherché une seconde chance. Manuel Valls est allé en chercher une à Barcelone, jurant qu'il ne reviendrait plus en France, pour finalement revenir tout de même, avec toujours la même haine, prendre un poste de chroniqueur sur BFM TV.
C'est ça.
Roselyne Bachelot, en son temps, la nièce Buzyn de la grippe aviaire, vous vous souvenez?
Oui. Oui.
Avait pris un poste de chroniqueur sur C8. Oui. N'en touche pas à mon poste, où tout le monde se souvient encore de ses prestations qui ont fait autant pour la crédibilité de la télévision que Jean-Marie Le Pen pour les droits de l'homme. Oui. Ça a marché pour elle, car notre président, que Dieu le bénisse et nous le garde longtemps, lui a donné une seconde chance en tant que ministre de la Culture. C'est d'ailleurs sans doute le même parcours qu'espère faire notre catalan socialiste d'extrême droite, Manuelito. Il y en a d'autres qui viennent de se voir accorder une nouvelle chance. Et c'est bien mérité, car franchement, on lui a cassé l'épée pour 2-3 broutilles, pas de quoi casser 3 pattes à un canard. deux costumes, un emploi de potiche pour sa femme à l'Assemblée. Franchement, est-ce qu'on emmerde le monde, si vous me passez l'expression, pour un but bien sociaux, détournement de fonds publics, pour si peu? Je vous le demande, Adil. Eh bien, François Fillon vient de se faire donner une seconde chance par un humaniste russe, Vladimir Poutine, qui vient de le faire nommer au conseil d'administration d'un géant de la pétrochimie russe, Sibur, ce qui viendra compléter sa rémunération d'administrateur d'un autre groupe pétrochimique, Zarubezhneft. J'espère qu'il continuera de travailler pendant encore longtemps à l'amélioration des relations franco-russes et aussi de son patrimoine, et qu'on abandonnera ces ridicules accusations et que cette condamnation à 5 ans de prison en première instance ne l'empêchera pas de poursuivre cette belle carrière. Et puisque c'est le début de l'année, je vais formuler des vœux. Il n'est pas trop tard. J'espère que Vladimir Poutine donnera aussi une seconde chance à Nicolas Sarkozy, ça le changera du Qatar, et à Patrick Balkany, car je pense moi aussi, comme Valérie Pécresse, que les délinquants ne doivent pas parader avec leur bracelet électronique et qu'il ne faut pas hésiter à être ferme avec eux.
Bravo. Bravo mon cher docteur, bravo, bravo docteur Majid Soussine pour ce quoi de neuf. On vous retrouve mercredi prochain sans faute.
Avec joie, avec joie.
Dites-moi un petit mot juste sur l'état des lieux, comment ça porte aujourd'hui votre service, évidemment avec la montée concernant le Covid.
Alors, on est, comme je l'ai déjà dit, on n'est que très peu impacté, pas tant que ça finalement, par les hospitalisations pour les patients Covid. Les patients Covid qui sont hospitalisés, c'est souvent des patients qui ne sont pas vaccinés. C'est ceux-là qui occupent les lits de réa et ceux qui occupent les lits de salle en médecine. On est plus impacté par la pénurie de personnel de santé, et ce qui fait qu'on a des malades qu'on pourrait hospitaliser, mais qu'on ne peut hospitaliser parce qu'il n'y a personne à mettre devant les lits pour les prendre en charge. Et c'est ça le vrai drame, en fait.
Eh ben merci.
On est obligé de déprogrammer des activités pour des gens qui en auraient besoin parce qu'il n'y a plus personne qui veut travailler à l'hôpital public.
Exactement. Merci, docteur Majid Soussine. À la semaine prochaine, sans faute. 19h36, 37 même, d'ailleurs. On marque la dernière pause pub et on se retrouve pour la dernière ligne droite. Je donnerai la parole à Gamal Abina, Mohamed Benjebo, concernant ce sondage donc et la chute, la forte baisse donc d'Emmanuel Macron face à Valérie Pécresse. On traitera aussi l'autre sujet concernant la gauche. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Il est 19h42, ici même dans les informés, dernière ligne droite avec Emmanuel Dupuis, avec Gamal Abina, avec Mohamed Benjebour. Tout de suite, je redonne la parole pour parler de, avant de parler des conditions donc de ralliement avec Taubira, mais surtout où en est la gauche, le sondage, le fameux sondage Gamal Abina, avec évidemment les élections présidentielles. Macron en forte baisse au premier tour.
Forte baisse, c'est un grand mot. 3 points, c'est pas une forte baisse, c'est une baisse importante, mais j'ai envie de dire, il est très très haut malgré tout. Il descend jamais sous les 20 points. Il a une base électorale énorme. Les gens oublient ça. Il va réussir son pari Covid, parce qu'il va se présenter comme étant le vainqueur du Covid. Et surtout, Macron, qu'on le veuille ou non, le fameux « quoi qu'il en coûte, ça a fonctionné ». Il y a beaucoup de gens qui ont été achetés par cette logique, une logique qui était nécessaire. Mais moi, j'ai envie de dire que ce n'est pas lui qui m'étonne. Lui, il passera. J'ai aucun doute sur sa réélection. Vraiment aucun doute.
Sur sa réélection ou sur
sa réélection? Pourquoi? Parce que depuis des mois, on nous dit qu'il baisse, il baisse, il baisse, mais il continue à caracoler en haut en tête dans les sondages. Là, il fait une bêtise avec cette histoire d'expression un peu vulgaire parce qu'il veut rallier la France la plus simple, entre guillemets, dans les idées. L'extrême droite, en substance, c'est souvent les radicaux. Mais j'ai envie de dire un truc, c'est que c'est pas Macron qui me fait rire dans l'histoire. Lui, il est en son poste, il l'occupe très bien. Ce qui me fait rire, c'est la partie en face, la gauche, qui est ridicule.
Eh ben, on va en parler.
Et surtout, ce qui me fait rire, c'est qui sont ses opposants? On a qui? On a Pécresse qui a sorti le Karcher, elle était pathétique, elle nous a fait Sarkozy bis alors que Sarkozy a des dossiers à n'en plus finir. On a qui à côté? On a un excité qui essaie d'être calme, c'est la France Insoumise qui va finir à 10%. On a un Zemmour qui est un lièvre qui sert à rien, qui était juste là pour fracturer un peu l'extrême droite, et on a une Le Pen qui est totalement à faune, qu'on n'entend plus, parce qu'elle se sent débordée des deux côtés, par la droite et à la gauche. Donc j'ai envie de dire que je ne vois pas qui peut s'opposer à Macron de façon sérieuse, et surtout, quand on voit les candidatures fantaisistes de gauche. Je ne parle pas d'extrême gauche, mais de la gauche. On va en parler dans quelques minutes.
Faut qu'on avance. Mohamed Benjebour, je vous redonne la parole à Emmanuel Dupuis, parce qu'on ne l'a pas entendu sur ce sujet, Mohamed.
Non, moi, je voulais simplement dire qu'effectivement, Gamel a raison. Il y a un socle énorme et très solide qui va de 22 à 23, 24%. On parle de ce. Alors, certes, il a morflé, pardonnez-moi l'expression, à cause de son expression. Ça a beaucoup embêté beaucoup de nos concitoyens. Mais contrairement à Gamel, je pense qu'il n'est pas assuré d'être réélu pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de déçus du macronisme. Il doesn't walk the talk. Il y a beaucoup de grandes postures et en fait, au final, pas grand chose derrière sur certains sujets. Et ça, je pense que ça va lui coûter. Et quand on parle de Pécresse comme une vraie concurrente, je trouve qu'on la survend un peu parce que il faut pas enjamber le premier tour. On n'est même pas sûr qu'elle soit au second tour. Celui qui la sert, Pécresse, c'est évidemment Zemmour, en fracturant, comme le disait tout à l'heure Emmanuel ou Gamel, le Front National, et où le vote de l'extrême droite. Mais à part ça, enfin, je pense pas que Pécresse soit assez solide, malheureusement. Je crains qu'elle nous fasse une Le Pen, c'est-à-dire que même si elle se retrouve au deuxième tour, elle fasse quelques petites gaffes au débat de l'entre-deux tours.
Qu'elle a déjà fait.
Qu'elle a déjà commencé à faire avec le Karcher notamment, hein, où elle s'est ringardisée.
Emmanuel.
Voilà.
Emmanuel Dupuy.
Alors moi, je focaliserai pas sur la présidentielle. Je crois que c'est pas l'objectif. Enfin, je crois que je crois que c'est pas l'essentiel. Je crois que la nature du régime est en train d'évoluer. Les citoyens veulent davantage d'implication du corps législatif. C'est un mouvement de fond. Et je crois que c'est beaucoup plus important de focaliser sur les législatives. Il y a deux stratégies. Partir du principe que Emmanuel Macron, à 99%, sera réélu président. Mais avec quelle majorité?
Exactement.
C'est ça l'objectif. Et je crois, contrairement à ce qu'a dit Gamal, que Valérie Pécresse joue parfaitement cette doctrine-là. Marine Le Pen ne pourra pas être Premier ministre, ni Marine Le Pen, ni Éric Zemmour ne pourront être Premier ministre d'Emmanuel Macron. Par contre, Valérie Pécresse sera quasi assurée de l'être, parce qu'une bonne partie des députés de La République En Marche ne vont pas être réélus. Je crois que le vrai objectif de la droite, c'est de reconquérir le pouvoir. Il y a eu des réformes constitutionnelles qui, progressivement, font que la...
Cohabitation, donc.
On sera en cohabitation.
Non, je ne crois pas du tout.
Bah, il n'a pas de majorité si, derrière, Gamal.
Quelle majorité? Mais quelle majorité?
Non, mais Macron est un stratège politique. Il a siphonné à gauche et à droite, et c'est la droite qui l'a détruite, littéralement.
Mais non, mais c'est pas
ensuite,
n'oublions
une dernière chose importante. Et c'est un truc, il ne faut jamais perdre de vue, parce que les gens oublient, on est en France. On est dans un pays extrêmement patriarcal. Ils ne vont jamais voter pour une femme. Il faut être très clair.
Non, mais c'est pas ce qu'il dit.
Non, mais j'entends bien. Il pense qu'elle va porter la droite aux législatives. D'accord. Le problème, c'est que quand il y a une élection présidentielle et que le président emporte la mise, en règle générale, il y a un de marée législative derrière.
Il bénéficie que le parti soit constitué.
Mais il a réussi à obtenir une présidence sans parti.
Ah, c'est différent.
Ouais, là, ce sera différent.
C'est différent puisqu'il avait été élu par défaut en rupture avec le système. Là, c'est son propre système. Il peut pas aller à l'encontre de son système.
Non, il va se réinventer.
Mathématiquement, mathématiquement, le groupe En Marche va perdre la moitié de ses députés.
Et puis les députés.
Et arithmétiquement.
Il n'est pas convaincu, Gamal Abina.
Mais peu importe qu'il soit convaincu. C'est un calcul politique. Actuellement, il y a une majorité de droite dans ce pays.
Bien sûr.
La preuve,
même chez Macron,
les sondages le prouvent, et que vraisemblablement la majorité législative de Macron sera une majorité qui lui imposera une politique et pas la sienne. C'est tout.
Dernier sujet qui a retenu notre attention, il est 19h47. Je voudrais quand même qu'on le traite. Cette fameuse gauche existe-t-elle encore? Peut-elle sauver évidemment la mise? Gauche, on parle de ralliement de plus en plus avec Montebourg, Taubira et les autres certainement. Alors, est-ce que on peut considérer aujourd'hui que la gauche arrive pas un peu trop tard et la gauche peut-elle encore sauver les meubles? Gamal Abina.
Moi, je considère déjà que l'erreur monumentale qui a été produite par... Je ne parle pas de Taubira, que je trouve ridicule, je vais être honnête. J'aime beaucoup Taubira, mais se présenter simplement...
Clochette.
Non, mais le droit d'avoir un jugement de valeur sur une erreur stratégique. Elle disparaît 5 ans, elle apparaît, coucou, me voilà, je vais sauver la France. Ça, c'est ridicule. C'est en cela que je la trouve ridicule. Pas elle en tant que personne, parce qu'elle est sympathique. Ensuite, je parle vraiment celle que je n'ai pas compris, c'est madame la maire de Paris. J'aurais jamais imaginé qu'elle ait osé se présenter parce qu'elle est dans une situation extrêmement compliquée. Elle est ridicule aussi en termes de sondage, mais surtout elle avait la possibilité de faire ses fameux Jeux Olympiques, enfin ces Jeux de Paris, qui lui auraient donné une véritable belle image. Elle était tellement pressée, elle s'est auto-intoxiquée qu'elle a fini par se présenter. Et bien aujourd'hui, vous savez ce qu'elle essaie de faire? Elle essaie de trouver un moyen pour sortir par la petite porte. Elle veut faire une primaire, comme ça elle perdra les primaires et c'est quelqu'un d'autre qui passera devant elle. C'est ce qu'elle cherche à faire. C'est pathétique, il n'y a plus de gauche.
Emmanuel Dupuy, c'est pathétique, il n'y a plus de gauche, il dit.
Je partage ce point de vue, elle cherche à se victimiser.
Ah bah d'accord,
absolument. Elle donne l'impression qu'en gros, elle y est allée, que les conditions n'étaient pas réunies, que les militants n'étaient pas mobilisés, que le parti est exsangue, et financièrement et humainement, et donc de donner le bon rôle. Pourquoi? Pour essayer de sauver ces Jeux de 2024.
Absolument.
Et je pense très sincèrement qu'elle joue l'étape suivante, 2027, tout comme l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui pour l'instant est un peu sur la réserve. Son parti Horizon ne décolle pas.
Non, ça décolle
pas. Je pense très sincèrement qu'il prépare 2027 lui aussi.
Et donc, 2027.
Je pense que l'idée selon laquelle il puisse y avoir une remobilisation de gauche arrive mais je ne fais que répéter ce qu'a dit finalement Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, trop tard.
Absolument.
D'autant plus.
Trop tard.
D'autant plus que c'est tout. Une primaire de la droite, de la gauche, pardon, en excluant les Verts et en excluant.
Les Verts s'auto-excluent.
Oui, donc c'est une primaire des socialistes.
Voilà, des socialistes. Donc c'est
pas
une primaire.
Ça va pas très très loin. On parle de combien ? On parle de 3,5 pour Madame Hidalgo.
À 2, ils sont à 5.
Même pas
3.
Elle est à 2, là.
Elle est à 2, ça. Ils sont à 5.
Elle est à 2, ouais.
Et Christiane Taubira, 3,4. Bon, vous voyez, je pense très sincèrement que ça arrive trop tard.
D'accord.
Je pense que c'est une opération pour essayer de aller de peinturlurer le Parti Socialiste comme une maison qui existe encore, alors qu'en gros, une bonne partie de ses militants, une bonne partie de ses cadres a déjà basculé chez la France Insoumise ou chez les Verts.
Et pourtant, ils sont très présents dans les régions de France.
Oui, mais
c'est... Ah oui, les départements et les régions de France.
Ça a toujours été un parti de cadres et d'élus.
Bien sûr, absolument.
Moi, avant de réagir sur la gauche ou ce qu'il en reste, je voulais revenir sur ce que Gamel et Emmanuel disaient par rapport aux législatives. Je pense vraiment que les députés En Marche, pour deux raisons, n'ont pas imprimé. La première, c'est parce que souvent le casting a été un peu fait à la va-vite, vous vous souvenez, il y a 5 ans. Et la deuxième, c'est l'absence du cumul des mandats qui les a empêchés d'imprimer localement. Donc je pense totalement comme Emmanuel, que même si Macron venait à gagner, ce qui n'est pas certain s'il est face à Valérie Pécresse au second tour, il est loin d'être certain d'avoir une majorité. Maintenant, pour Madame Hidalgo, c'est vrai que elle aurait dû y penser avant. Je pense qu'elle aurait dû penser à 2027, avant, en se servant, comme le disait Gamal tout à l'heure, ou Emmanuel, des Jeux Olympiques comme tremplin pour se donner une posture présidentielle. Là, c'est ridicule. Ils sont en train de tuer la gauche. Ça avait commencé sous Hollande, ça a été bien concrétisé par Macron, et on voit que les fossoyeurs...
Est-ce qu'on est en train d'assister justement à la fin d'une gauche, la fin de la gauche, la fin du Parti Socialiste
d'une gauche, je suis d'accord.
Alors, la fin d'une gauche. Non, ah oui, la fin d'une gauche.
La fin du Parti Socialiste, oui.
La fin du Parti Socialiste.
Mais oui, parce que la gauche existe encore.
Les
républicains de gauche, le républicanisme de gauche, voire laïcard, est incarné par Jean-Luc Mélenchon, avec une forme de révolte, une forme de résistance qui va bien plus en profondeur que le réformisme social-démocrate. L'idée d'un parti social-démocrate en France n'existe plus. Ça, c'est une réalité.
Dommage.
Vous partagez ? Vous êtes d'accord ?
Oui, tout à fait.
La fin d'une gauche ou la fin du Parti Socialiste ?
La fin du PS.
La fin du PS. La fin du
PS.
Justement, la fin du PS ou la fin d'une gauche ?
Non, du PS uniquement.
La fin du PS.
Parce que le peuple de gauche, lui, il existe. Il n'y a pas de problème. Il n'a pas été atomisé.
D'accord.
Moi, je pense que le PS peut renaître de ses cendres par les grands élus et par les grandes collectivités locales en province, notamment, comme les Carole Delga et consorts, qui peuvent, ou la maire de Rennes, enfin, etc.
Je vais te dire une dernière chose.
Ouais. Mais ils ne soutiennent pas forcément Hidalgo. Hein.
Ouais, mais
Carole Delga, si, aujourd'hui. Alors, comme le soutien à la corde.
Aïe, ça va dans tous les sens.
D'ailleurs, surveiller Delga pour 2027.
Oui, c'est vrai.
Je dis ça, je dirais.
J'allais dire une dernière chose, c'est que la SFIO est disparue dans les mêmes conditions quasiment, c'est qu'elle est partie de gauche. Le nom disparaît, le mouvement existe parce qu'il y aura toujours des gens un peu pauvres, un peu perdus ou qui cherchent un espoir à gauche.
On n'est pas obligé d'être. Tu sais que les pauvres votent Front National.
Non, hein. Mais je veux dire, il y aura toujours une base populaire qui existe à gauche.
Allez, générique de fin. Merci à Emmanuel Dupuy, le président de l'IPSE.
Merci à vous.
À très bientôt.
Ben, c'est toujours un plaisir.
Gamal Abina, le porte-parole du mouvement.
MDC.
De droit civique. À très bientôt.
Très bientôt.
Tu n'aimes pas le mouvement des citoyens de ex-Jean-Pierre
surtout pas.
Du tout. Merci à Mohamed Benjebour, communicant. À très bientôt. Merci à Faisal. À bientôt.
Merci.
À bientôt. Bel kalima en français. À bientôt.
À bientôt.
See you.
See you soon.
Voilà. À bientôt. Hey, il parle français. Notre ami Bilal Nedman. Bonsoir.
Bonsoir.
Comment ça va? Alors, qu'est-ce que tu nous prépares comme programme pour Time Sport?
Alain Giresse qui va réagir ce soir. Eh oui, il va réagir par téléphone parce qu'il y a
l'entrée. Alain Giresse.
Eh oui. De la Tunisie.
C'est bien ça.
Les ex de Carthage. Ouais, mais il y a eu un gros problème là sur le match.
C'est pas le problème encore.
Tunisie, Mali.
Et les clochettes là.
Tunisie, Mali. Mais non.
Et l'arbitre là, qu'est-ce qu'il nous a fait le
l'arbitre? On n'a pas compris. 85e. Ouais, c'est assez chaud. On va en parler. On va en parler avec.
Autre chose comme programme. Chose,
on va parler du Classico en Arabie Saoudite, justement.
Ah, bah tiens, l'Arabie Saoudite ouais, le Classico
avec Benzema.
Eh bien, il vient d'Arabie Saoudite, voilà.
C'est
voilà,
des accusations de racisme de Roger Milla.
Voilà.
Est-ce qu'on va parler des accusations? Il faut parler des accusations.
On en avait parlé. Oui. Et on parlera aussi du début du mercato, voilà.
Allez, 20h-21h avec Bilal Nedman qui vous attend donc dans une poignée de minutes. Merci à vous à la réalisation. C'était Yanis. Merci aux auditeurs 01-53-48-3000. À demain avec autant de plaisir. Et vous le savez, on ne lâche rien. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.